Radio Kapi. Oh,
Kapi. Le journal Billy Ivan Lutumba.
Quelques heures seulement nous séparent du démarrage des épreuves d'examen d'État. Comme à l'accoutumée, c'est la série hors session qui débute ce lundi. Tout de suite en ouverture de ce journal sur Radio Okapi, vous suivrez le message de l'inspecteur général à l'éducation, spécifiquement aux candidats alignés. Où en sommes-nous avec les travaux de construction de la rocade, cette route qui doit contourner la ville de Kinshasa? Dans ce journal, vous aurez plus d'amples détails avec notre reporter Blaise Ndongala qui a accompagné l'équipe du ministre des Infrastructures qui a évalué hier les travaux d'asphaltage du côté de la commune de Mongafula. Et enfin, dans ce journal, satisfaction en commentaire du président provincial de la NAPECO, province de l'Ituri, David Poutou, sur cette décision du gouvernement d'exonérer les élèves finalistes des provinces de la partie Est concernant les frais de passation d'épreuves d'examen d'État. Il est notre invité. Tout ceci et bien d'autres nouvelles diversifiées de la RDC, c'est tout de suite sur Radio Okapi, dans votre édition vespérale. Radio Okapi, toujours à votre service de l'information. Bienvenue et excellente condition d'écoute à toutes et à tous. Bonsoir de partout, vous nous suivez en RDC. Au moins 1 073 700 candidats, dont 461 184 filles sont attendues aux épreuves hors session de l'examen d'État qui débute ce lundi 2 juin à travers le territoire national. C'est l'inspecteur général à l'éducation nationale, Hubert Kimbonza, qui livre ces chiffres dans un entretien accordé à Radio Okapi. Il précise que ces candidats seront répartis dans 3165 centres installés même dans quelques pays frontaliers. L'inspecteur général à l'éducation confirme la tenue de ces épreuves certificatives, même dans la partie sous occupation rebelle, à savoir le Nord et Sud Kivu. Hubert Kimbonza invite les candidats à se méfier des antivaleurs dont la tricherie, la corruption et autres. Suivez ses propos au téléphone de Blaise Ndongala.
Selon le calendrier qui a été révisé par son excellence Madame le ministre d'État Raissa Malou, il est prévu dans quelques heures le début effectif des épreuves de la hors-session de l'examen d'État édition 2025. Et le tout, c'est pour un total de 3165 centres. Et à l'heure actuelle, je vous dis, que ce soit à Kamituga, à Kalehe, que ce soit à Bukavu, Goma, Kindu, Kinshasa, Mbujimayi, Kananga, partout à travers la République, les enfants seront mis dans les mêmes conditions d'évaluation. Toutes les malles contenant les cahiers des thèmes des apprenants ont été acheminées dans tous les centres de passation. Que ce soit ceux qui sont au niveau du territoire national, mais aussi ceux qui se trouvent dans des pays limitrophes de la RDC. Les candidats d'éviter tout ce qui est en valeur, pas de tricherie, pas de suivi, qu'on ne vous trompe pas.
Comme vous l'avez suivi, ces épreuves sont nationales, donc concernent tous les jeunes Congolais. Qu'en est-il de ceux dans des zones sous occupation rebelle? Dans la province éducationnelle du Nord Kivu 1, les malles contenant les questionnaires sont arrivées dès le 25 mai dernier. Les autorités du secteur de l'éducation assurent que toutes les dispositions ont été prises pour garantir le bon déroulement de ces épreuves, et ce, malgré le contexte sécuritaire encore fragile dans certaines zones de la province. L'organisation de cette édition de l'examen d'État dans cette province témoigne de la résilience non seulement des élèves et de leurs parents, mais aussi celle des professionnels de l'éducation face aux défis actuels dans cette partie du pays. Le point avec vous, Alain Hérong.
Au total, 22 323 candidats sont inscrits dans cette province éducationnelle cette année, dont 11 319 filles réparties dans 68 centres d'examen. 42 centres sont à Goma, 15 à Rutshuru, 10 à Nyiragongo et 1 à Kigali au Rwanda. Sosten Panga, inspecteur principal provincial de l'éducation nationale pour le Nord Kivu 1, s'est montré satisfait de l'organisation. Il a déclaré « Les épreuves sont là, les candidats sont prêts et les centres d'examen ont été préparés en conséquence ». Les épreuves hors session débutent ce lundi par la dissertation. Elles seront suivies par les épreuves traditionnelles, principalement pour les filières techniques, puis la pratique professionnelle et l'oral de français. L'inspecteur principal provincial invite les finalistes à prendre au sérieux toutes les étapes de ces épreuves, soulignant qu'il n'y a aucun examen à négliger, car un seul point de moins peut entraîner l'échec.
Voyons à présent comment la province du Tanganyika se prépare pour ses épreuves à la veille de la passation de la dissertation. L'inspecteur de la sous-division provinciale de l'éducation nationale, Moba 1, appelle les candidats finalistes à respecter les règlements fixés pour la participation à cette épreuve. Dans une déclaration aux médias ce samedi, l'inspecteur rappelle en outre les conditions pour la passation des épreuves hors session de l'examen d'État. Les propos de l'inspecteur Simplice Moulindwa sont sélectionnés par Paulin Munanga.
Nous demandons à nos candidats qu'ils soient premièrement sérieux. Les chefs de centre les appellent à la veille de la passation de ces épreuves, de respecter ces règlements de la passation, de respecter les instructions du centre. C'est de là qu'ils doivent être disciplinés et ils doivent se respecter. Nous ne voulons pas des bruits dans des centres, nous ne voulons pas des désordres. Il y a des conditions. La première condition, il faut que cet élève-là soit régulier, inscrit à l'école, ou soit autodidacte. Mais cette fois-ci, il est interdit strictement de ne pas toucher l'argent au centre. Et celui qui n'a pas encore payé, il ne doit pas fréquenter l'examen, il ne doit pas avoir l'accès au centre. À Moba, nous organisons 4 centres. Il y a 2 centres à Kirungu, 1 centre à Mobaport, un autre centre à Kala.
Cette autre nouvelle concernant cette fois-ci des enseignants. Une délégation de la mutuelle de santé et des enseignants de la RDC séjournent à Kindu. Daniel Bikenge, membre de cette délégation, fait savoir que leur présence à Kindu, c'est pour mener des études de faisabilité pour l'installation prochaine de cette structure au Maniema. Ceci permettra désormais aux enseignants de leur famille et leur famille plutôt de bénéficier des soins médicaux appropriés. On écoute Daniel Bikenge dans ses propos recueillis par Florence Kizalunga.
Autrefois, nous étions à Bibwa avec le gouvernement de la République. Nous nous sommes convenus sur le principe de l'autoprise en charge des enseignants au niveau de santé. Et alors, nous sommes maintenant dans la phase du régime contributif. Et ici, dans la province du Maniema, nous allons demander aux enseignants de se faire baptiser dans la dynamique d'appropriation. Juste pour rappeler que la MESP, c'est une organisation, la prise en charge des enseignants à travers la structure MESP. Et nous avons l'obligation de nous prendre en charge, de nous sensibiliser, de considérer que la MESP au Maniema, c'est notre affaire. En dépit du fait que la délégation qui vient installer la MESP vient de Kinshasa, il ne faut pas qu'on vous fasse voir que la MESP, c'est une affaire des Kinois. Non, la MESP, c'est l'affaire de tous les enseignants de la République démocratique du Congo. Les conditions, il y a, d'abord quand quelqu'un est déjà enseignant, de droit il est membre. Les actes-là, c'est juste pour formaliser la procédure de manière à ce que les enfants puissent accéder aux soins de santé.
18h17 à Kinshasa, vous nous suivez de partout, peut-être bloqué dans des embouteillages, mais sachez que le projet de construction de la route des rocades prend de plus en plus corps avec le début ce samedi des travaux d'asphaltage dans sa partie sud-ouest dans la commune de Mongafula. Le ministre d'État en charge des infrastructures a assisté au lancement de ces travaux aux côtés des membres du comité de gestion de l'Agence congolaise des grands travaux et autres personnalités. Cette route périphérique vise à fluidifier la circulation dans la capitale. Blaise Ndongala Mayanda était sur place à suivre son reportage.
La section ciblée qui reçoit déjà la couche de bitume part du point kilométrique 13 comprenant les zones urbano-rurales de Njokol, Kombi, Ngoudiabaka, Mfuti, Kimvula et Mitendi. Pour les ministres d'État en charge des infrastructures, les débuts de ces travaux donnent de l'espoir pour la suite de ces projets visant à désengorger la circulation à travers la ville de Kinshasa. Alexis Guissaro.
Nous avons vu comment la nature a été transformée ici. Les travaux de terrassement, de remblai. Nous arrivons à la phase finale pour la construction de cette rocade. Cela nous donne de l'espoir pour la suite et que ce rêve du président de la République, chef de l'État, qui veut donner à notre capitale des solutions pour la fluidité de la circulation, je pense qu'il commence à devenir réalité. Ce n'est plus la nature, mais on roule sur une route asphaltée.
À la tête d'une forte délégation, le ministre d'État en charge des infrastructures a inspecté cette route jusqu'au quartier Njoku, en passant par Njili Brasserie, les avenues Biela, les quartiers Mokali et Bouma. Ces travaux sont exécutés par l'entreprise chinoise Crec 8 sur la partie sud-est et Crec 7 s'occupe de la partie sud-est sur un total de 74 km sous la surveillance de l'Agence congolaise des grands travaux et de l'Office de la voirie et drainage.
Dans quelques instants, 18h10, nous poursuivons ce journal. La fourniture de l'énergie électrique, voilà une autre préoccupation des Congolais. Ici, le directeur de distribution de la SNEL de la ville de Kinshasa annonce la reprise du fonctionnement du poste de la Founa depuis ce dimanche 1er juin. Cela après une coupure volontaire opérée pour les travaux. Denis Tukuzu l'a annoncé ce dimanche à Radio Okapi. En outre, il s'est exprimé sur les difficultés que les équipes de la SNEL rencontrent sur terrain avec les sociétés qui réhabilitent quelques routes de Kinshasa, notamment avec le sectionnement des câbles électriques. On écoute les explications de Denis Tukuzu au micro de Kaki Akiewa.
Premièrement, je vais commencer par ce que nous avions annoncé à notre chère clientèle il y a 3 jours aujourd'hui, donc depuis le 28, à 9h, qu'on devrait retirer à volonté, c'est-à-dire que faire une interruption volontaire afin de procéder à l'inspection d'un transformateur de puissance importante au poste de Founa. Vous comprenez que le poste de Founa, c'est un poste stratégique qui répond pratiquement le tiers de la population de ménage de la ville de Kinshasa. Donc quand vous retirez un poste pareil, la conséquence est que le tiers de la ville était dans les noirs, malgré que nous avons tenté de faire la reprise par-ci, par-là. Alors nous avons remis les postes depuis hier. Et nous devrions venir annoncer la remise. Il y a aussi un problème, l'entreprise Safrimex, en exécutant les travaux de réhabilitation de nos routes, ils font un bon travail, bien sûr, c'est pour nous permettre de rouler. Mais entre-temps, ils ne nous appellent pas pour nous associer et de voir là où passent les câbles pour sauver nos câbles.
Actualité en rapport avec la justice, c'est ce qui nous amène dans la province de la Tchopo. Le pasteur Jules Moulindo, représentant de l'église Cité des Réfuges, est condamné à 12 mois de servitude pénale principale par le tribunal de paix de Lamakiso à Kisangani. Il est reconnu coupable d'imputation dommageable et au paiement d'une forte somme à titre des dommages et intérêts de la partie civile. Les précisions avec Jacques Mokonkole.
Ce verdict intervient au terme de quelques audiences publiques organisées par le tribunal de paix de Makiso après la saisine de maître Patrick Moulimangombe, avocat inscrit au barreau du Haut-Touélé. Celui-ci avait porté plainte contre le pasteur Jules Moulindois pour divers griefs, notamment imputation dommageable. À toutes les séances judiciaires convoquées, l'incriminé ne s'est jamais présenté ni s'est fait représenter, surtout qu'il ne pouvait compter sur un corps qui l'a vilipendé et exposé au mépris de l'opinion, selon maître Patrick Moulimangombe. Au terme de la procédure judiciaire engagée, le tribunal l'a condamné à 12 mois de servitude pénale principale. Il est astreint également au paiement de 50 000 $ américains des dommages et intérêts à la partie civile, maître Patrick Moulimangombe. Le tribunal a ordonné aussi son arrestation immédiate. Pour le plaignant, cette condamnation a un caractère dissuasif et pédagogique.
Ça a jeté un discrédit permanent sur l'honneur de l'avocat. Donc l'avocat était devenu comme un sujet de manquerie. Alors ce genre de choses, ça ne peut pas passer dans une société où il y a beaucoup d'abus, il y a beaucoup d'infractions, il y a beaucoup de criminels. Sans les avocats, rien ne marchera. Alors, décourager ces comportements justement pour que personne d'autre ne puisse revenir sur ce genre de déclarations.
Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Avant de passer à la page internationale de ce journal sur Radio Okapi, parlons de cette nouvelle en lien avec le respect des droits humains par les policiers congolais. La police de la territoriale dans la ville-province de Kinshasa a encore du pain sur la planche pour être classé parmi les bons élèves en matière de respect des droits de l'homme. En tout cas, c'est ce que signale la direction d'investigation de l'inspection générale de la PNC après une mission d'évaluation effectuée sur terrain, selon des instructions de l'inspecteur général Philemon Patience Mouchidiav. D'après le commissaire supérieur Jean-Claude Tibouyanga, directeur du bureau des investigations, après plusieurs sessions de conscientisation et ateliers sur les respects des droits humains et déontologie de la police, une amélioration se constate dans le chef de la police des circulations routières, quand bien même beaucoup reste à faire. Commissaire supérieur Jean-Claude Tibouyanga.
Monsieur l'inspecteur général a dépêché dans toute la ville de Kinshasa 4 équipes, plus une équipe de supervision conduite par moi-même, pour aller voir le comportement tant de la PCR que de la police de la territoriale. Du côté de la PCR, il y a une nette amélioration. Vous allez voir que au moins à 50%, ils tendent un peu à s'améliorer. Mais il y a des cas isolés qui nous échappent. Nous devons continuer. Maintenant, du côté du respect des droits humains par nos collègues de la territoriale, on a constaté qu'il y a beaucoup de choses à faire. Beaucoup plus en ce qui concerne les arrestations arbitraires, les détentions illégales, comme dans d'autres sièges en commissariat où il y a la promiscuité, où on a arrête les mineurs, on arrête les hommes et les femmes, on les met dans un même lieu d'incarcération. Ça, ce n'est pas ce qui est recommandé par les lois de la République. Donc, il y a beaucoup de choses à faire du côté du respect des droits humains. Mais au fur et à mesure que nous serons toujours sur terrain, nous allons commencer à décanter pour que la population se sente à l'aise.
Actualité internationale.
Le gouvernement gabonais interdit l'exportation de manganèse brut dès le 1er janvier 2029. Cette décision, qui rompt avec des décennies d'économie extractive, permettra au pays d'instaurer une industrie de transformation nationale. Le Gabon est le deuxième producteur mondial de manganèse brut. Le minerai est, avec le pétrole et le bois, l'une des principales sources des revenus du pays. Si le Gabon est déjà l'un des plus riches d'Afrique en PIB par habitant, le décret précise qu'il développera, grâce à cette mesure, une politique industrielle axé sur la transformation locale des matières premières. Et puis, à 5 mois de l'élection présidentielle ivoirienne, l'opposition politique incarnée par la coalition pour une alternance pacifique a appelé samedi à un dialogue politique avec le parti au pouvoir, le Rassemblement des Républicains, RDR. Les leaders de l'opposition ont dénoncé la candidature potentielle du président sortant Alassane Ouattara, ainsi que l'exclusion de plusieurs personnalités politiques de la liste électorale, dont Tidjane Thiam, ancien directeur général de la banque suisse Crédit Suisse.
L'invité.
Après les provinces du Nord et Sud-Kivu, le gouvernement central décide d'exonérer les élèves finalistes du secondaire et des humanités de l'Ituri des frais de passation des épreuves certificatives, dont l'examen d'état et le test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle TENA-SOSP. Comme réaction, nous recevons dans ce journal le président provincial de l'Association nationale des parents d'élèves du Congo, David Mputu. Il s'entretient avec Jean-Claude Lokidile.
David Mputu, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Je rappelle que plusieurs organisations, acteurs politiques, vous-même, ANAPECO, vous aviez plaidé pour que les parents, en tout cas, soient exonérés de ces frais au regard des conditions difficiles à cause des effets de la guerre. À chaud d'abord, en bref, comment vous accueillez cette décision du gouvernement sans rentrer dans les fonds?
À chaud, c'est salutaire, dans le sens que vous vivez avec moi dans la province de l'Ituri et que la plupart de nos écoles, ça n'a pas été facile, même si nous sommes en train de cheminer à la fin de l'année scolaire, parce qu'il y a beaucoup de parents avec les enfants qui sont en déperdition, donc ils ont quitté des fois leur milieu pour se trouver dans un autre milieu, avec l'esprit d'encourager l'enfant à aller étudier, et ces parents sont dans de difficultés énormes. La raison pour laquelle nous disons que cette mesure, elle est salutaire, dans le sens que quand nous avons entendu de rumeurs que cela a été fait pour les Nord-Kivu et les Sud-Kivu et non pas les Ituri, bon, à un moment donné, on s'est dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Parce que nous traversons tous la même situation.
David Mputu, le gouvernement décide de prendre en charge tous les frais, parce qu'il se communiquait, tous les frais pour les provinces affectées par la guerre, notamment l'Ituri, Nord-Kivu et Sud-Kivu. Mais vous, vous avez des inquiétudes par rapport justement à cette décision et vous demandez au gouvernement, en tout cas, d'honorer sa parole.
L'inquiétude est fondée dans le sens que nous sommes dans un système de gratuité au niveau de l'école de base, comme vous l'avez dit, au primaire. Et quand on arrive au niveau de primaire, chaque fois le gouvernement lance que tout est gratuit. Mais dans l'entretemps, l'organisation, les centres de correction et autres, comment ça doit se passer? Nous avons travaillé plusieurs fois, on nous a demandé d'envoyer nos numéros de MPSA, d'envoyer nos cartes de lecteur, mais ça n'a jamais été honoré. Est-ce qu'aujourd'hui ce n'est pas la même chose? C'est bien. Nous pensons que le gouvernement doit s'assumer, comme nous l'avons toujours l'habitude de le dire. Le gouvernement doit mettre les moyens pour que les acteurs pédagogiques fassent correctement leur travail.
C'est quoi l'inquiétude? C'est quoi la crainte?
La crainte qu'on peut avoir de telles décisions, mais pratiquement sur le terrain, il n'y a rien qui arrive. Ce n'est pas la première fois.
Vous pensez que ça peut peut-être décourager ou affecter ceux-là qui vont superviser, peut-être pour bâcler le travail? Je ne sais pas.
Absolument. Les gens peuvent être tentés. C'est l'examen d'état, non? Il faut mettre dans les gens dans les conditions sécurisées. Ce qui veut dire qu'ils ont leur per diem, ils travaillent et on fait le suivi. Vous comprenez ça? On fait le suivi. Il y a des gens, comme dans notre province, plusieurs personnes qui sont en train de travailler, des fois qui n'ont même pas les diplômes d'État. N'est-ce pas? Ils peuvent trouver des occasions pour aller importuner des responsables dans le centre d'examen d'État. C'est la raison pour laquelle il faut que le gouvernement mette le moyen. Et ce n'est pas quelque chose de promesse qu'il mette le moyen pour déployer le mal d'examen d'État. À Nyanya, comment ça va arriver? À Biakato, comment ça va arriver? À Imbokolo, à Ngoumou. Il faut des moyens, non? Donc ce n'est pas quelque chose de magique.
Il y a des parents qui doivent terminer à payer tous ces frais. C'est vrai, le gouvernement promet encore que ceux-là, ces parents qui ont déjà payé, se feront rembourser. Mais il faut d'abord que l'argent arrive à Kinshasa. Est-ce que là aussi, en tant qu'ANAPECO, vous avez aussi des inquiétudes par rapport à cette promesse encore?
Oui, mais le problème c'est quoi? Au niveau intermédiaire, au niveau de la province, si le gouvernement envoie le moyen, les parents qui ont payé de frais, c'est très simple, les parents ont payé le frais à travers les écoles où étudient leurs enfants. Et ces écoles versent l'argent à l'inspection. Si le gouvernement rembourse l'argent, les parents, à travers les écoles, ils auront leur argent. Il ne faut pas que ça traîne. Nous restons positifs vis-à-vis du gouvernement. Et nous pensons que ce sont des responsables et qu'ils vont agir en responsables pour que ceci ne puisse pas avoir des impacts à tous les niveaux. Nous attendons que le gouvernement réagisse correctement, comme toute hiérarchie, pour que toutes les provinces concernées ne puissent pas connaître encore le déboire en rapport avec l'organisation d'examen d'État.
David Boutou, je vous dis merci.
C'est à moi de vous remercier, monsieur le journaliste.
Et à vous, auditeurs de Radio Okapi, il ne reste aussi qu'à vous dire merci pour avoir suivi cette édition de journal préparée par Alain Hirong, Jacques-Yves Molima, Debs Vita assuré la prise des soins et la mise en onde, et Billy Ivan Lutumba vous l'a présenté. Au nom de toute cette équipe, je vous dis sincèrement merci pour votre attention soutenue.